Dieu, par son esprit, il fait bien les choses parce qu'il a préparé, ce message au travers de tout ce qui a été déjà partagé, au travers de la Sainte Cène, au travers du don spirituel. Le Seigneur, il nous parle. Et combien de fois j'ai réalisé dans ma vie, en assistant à différentes réunions avec différents pasteurs qui n'avaient rien à voir, qui ne s'étaient jamais parlé, mais qui disaient exactement les mêmes choses, les choses que je venais moi de lire dans ma chambre et qui ont touché mon cœur parce que j'ai vu la main de Dieu, que Dieu conduisait les temps, les circonstances comme il voulait pour me parler. Ce matin, je voudrais vous parler par rapport à un verset que tout le monde connaît quasiment, un verset des plus connus de la Bible. Alors, il faut que vous m'aidiez à savoir c'est lequel. Bon, voilà. Ça n'a pas duré longtemps. Hein. Jean 3,16. Donc on va dans Jean, chapitre 3. Et il y a quelque chose d'incroyable dans ce verset. C'est que, vous savez, souvent on a des gens qui nous disent « Ah, mais si Dieu existait, pourquoi il y a tant de mal? Pourquoi il y a tant de misère? Pourquoi il y a tant de souffrance ?» Et les gens refusent de comprendre l'amour de Dieu comme ça a été dit. Les gens refusent de comprendre l'amour de Dieu comme Dieu a voulu qu'on puisse le comprendre, c'est-à-dire en regardant à la croix. Et ce passage dans Jean chapitre 3 nous montre bien l'œuvre de Jésus, nous montre bien aussi l'œuvre de Dieu au travers du don de son Fils. Et Jean chapitre 3, on peut lire à partir du verset 14, qui nous explique le contexte dans lequel il faut bien comprendre ce verset. « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Amen. Vous connaissez tous ce verset. Mais on a besoin, pour comprendre en profondeur, pour réaliser l'amour de Dieu avec vérité, on a besoin de retourner à ce passage de l'épisode des Israélites dans le désert, quand il y a eu l'histoire du serpent d'airain et Moïse qui a dû élever un serpent d'airain, pour comprendre l'amour de Dieu. Alors je voudrais qu'on puisse lire ce passage dans Nombre. Nombre, chapitre 21 et le verset 4. C'est un passage connu, mais peut-être un peu moins connu que justement Jean 3,16. Nombre, chapitre 21, le verset 4. Vous savez que ça fait des années et des années que les Israélites sont dans le désert. Alors qu'ils auraient pu faire le voyage en quelques mois, ils ont tourné dans le désert à cause de l'incrédulité des personnes qui étaient là. Et c'est une nouvelle génération qui est venue, qui a connu aussi, en tant qu'enfant, le désert, et qui n'a connu peut-être que le désert. Et c'est une génération qui avait besoin d'avoir un regard différent sur les choses. Pour comprendre l'amour de Dieu, il y avait besoin de passer par cette étape. Le Seigneur Jésus, Dieu plutôt, à ce moment-là, a choisi de faire passer son peuple par cette étape, par cette difficulté. Ils partirent. Au verset 4, « De la montagne de Hor, par le chemin de la mer Rouge, pour tourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route, et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi avez-vous fait monter hors d'Égypte, pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. » Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, conserver la vie. Amen. Connaissiez cette histoire? Qui ne la connaissait pas? Bon. Eh bien, c'est l'occasion, en la lisant ensemble, de comprendre l'amour de Dieu. Comprendre que Dieu a aimé, dans cette histoire, c'est la manifestation de l'amour de Dieu envers son peuple, le peuple d'Israël. Mais Dieu, maintenant, nous aime à nous. Et Dieu a permis que, par sa grâce, nous puissions, nous aussi qui étions des païens, accéder à son amour, accéder à toutes ses bénédictions, accéder à ce fleuve de grâce qui coule avec abondance. Et qu'il désire que nous puissions en être remplis. Il ne désire pas seulement que nous sachions qu'il nous aime. Mais désire que nous soyons remplis de son amour. Alors que, quand priais, que j'entendais cette prophétie, je repensais à ce verset qui nous dit « L'amour de Dieu répandu dans nos cœurs, comment ? Par le Saint-Esprit. » Et je prie que ce matin, au travers de ce que nous partageons, le Saint-Esprit puisse répandre l'amour de Dieu dans chacun de nos cœurs. Et que nous puissions comprendre que Dieu a tant aimé le monde, que Dieu m'a tant aimé, qu'il a donné son Fils. Et que le but qu'il a mal tant aimé, qu'il a donné son Fils, c'est que j'ai la vie éternelle. Que ma vie maintenant, ici-bas, sur cette terre, elle puisse bénéficier de cette vie éternelle qui vient de Dieu. Est-ce que vous désirez cette vie? Moi, plus ça va, plus je regarde les informations, moins je les regarde, parce que c'est dépitant. Et plus je dis, Seigneur, j'ai besoin de ta vie, j'ai besoin de ton Saint-Esprit, j'ai besoin de ta présence, parce que ce monde, il court à sa perte On regarde autour de nous, c'est incroyable. Tout ce qui se passe, les journaux, on a tout le temps des histoires de plus en plus malheureuses. On n'arrive même pas à imaginer comment des gens peuvent faire certaines choses. Je dis, Seigneur, moi je veux ton amour. Je veux rester dans ton amour. Je veux rester dans ta paix, dans ta grâce. Le peuple d'Israël à ce moment-là, qui est cette nouvelle génération, il avait besoin d'avoir un regard particulier pour comprendre l'amour de Dieu. Et le problème de ce peuple, comme ça a été le cas de ses parents, c'est qu'il a éparpillé son regard. Il a dispersé son regard sur des choses qui ne méritaient pas d'attention. Et c'est ce que nous allons voir ce matin, le regard du peuple. Il y a eu plusieurs regards. Et quand on ne regarde pas où il faut, notre regard, il se corrompt, notre intelligence se corrompt, et on devient de plus en plus aveugle. Il n'y a qu'un seul, un seul regard qu'il faut avoir, et c'est un peu le titre de ce message, « Ayez le regard de la foi ». Le regard de la foi. Vous savez que le peuple, les parents qui ont péri dans le désert, c'est pourquoi ? À cause de leur incrédulité, à cause de leur manque de foi, à cause de leur manque de discernement par rapport aux choses spirituelles. Et le problème, c'est que quand on est dans cette attitude, on rentre dans une contestation. Il y a eu une révolte, il y a eu un grondement, des murmures, des plaintes, toutes sortes de choses. Et regardez, la première chose qui nous est dit, ils partirent de la montagne de Hor. Et je pense que quand ils sont partis, il y en a plusieurs qui ont regardé la montagne dehors et qui ont laissé traîner leur regard sur cette montagne. Est-ce que vous savez ce que c'est la montagne dehors? Qui le sait? Moi, je ne m'en souvenais plus, je vous rassure, je ne connais pas tout. Mais j'ai juste lu le chapitre précédent. La montagne dehors, c'est l'endroit où Aaron il est mort. L'endroit où Aaron est mort. Tout simplement. Et à l'âge de 123 ans, je crois. Donc c'était pas mal. Mais je pensais à cette réflexion que quand notre regard reste en arrière sur des personnes comme ça, est-ce que Aaron c'était une personne qui avait été utilisée par Dieu? Est-ce qu'il avait été parfait? Il y a différentes histoires, le veau d'or en particulier, ça nous montre qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Mais c'était une personne qui avait été mise à part, consacrée au service de Dieu. C'était le seul homme de tout le peuple d'Israël qui pouvait rentrer dans le lieu très saint une fois par an. Donc il y avait quand même quelque chose, on est d'accord, c'était quand même quelqu'un. Et je pensais à ce peuple qui regardait en arrière et qui disait, mais même lui, Aaron, qui avait reçu l'onction de Dieu, qui avait cette communion particulière avec le Seigneur, même lui qui était, à cette époque, c'était lui qui était le médiateur, qui faisait les sacrifices pour le peuple, même lui, il est mort dans le désert. Alors qu'est-ce qui va m'arriver à moi? Vous imaginez cette jeune génération qui a connu que le désert, qui jour après jour, je pense que tous les jours il devait y avoir des dizaines d'enterrements pour que les 600 000 hommes, et donc on ne compte pas les femmes et les enfants, enfin les enfants non puisqu'ils ont grandi, mais les femmes et les hommes qui ont été incrédules sont morts. Et vous imaginez tous les jours il y a des deuils qui avaient lieu. Jusqu'à ce qu'au bout de 40 ans, la génération soit passée et que la nouvelle génération soit là. Mais qui ont ce regard de comparaison. J'ai appelé ça le regard de comparaison. Est-ce que ça nous arrive jamais de nous comparer à des personnes, peut-être aux pasteurs, peut-être aux anciens, peut-être à quelqu'un qui fait le même service que nous, et on se compare, et on dit « mais lui, il lui arrive ça, alors moi ça va m'arriver ». Et on part dans une espèce de film, on se fait toute une considération fausse parce qu'on se compare. Et vous savez que quand on a ce regard-là de comparaison, on occulte la volonté de Dieu. Quand on essaye de voir, j'ai pensé à l'exemple de Daniel. Daniel a été délivré des lions. Est-ce que tous les chrétiens de toute la terre ont toujours été délivrés des lions? Pourtant, quand ils regardent l'histoire de Daniel, ils peuvent se dire, mais si je me compare à Daniel, je vais avoir la victoire toujours sur les lions. Donc je peux aller me promener au zoo et même sauter dans la cage du lion parce que j'ai cette assurance. Ça, c'est le résultat de quelqu'un qui a ce regard de comparaison. Vous comprenez le danger quand on se compare? Merci Seigneur pour cet exemple de foi de Daniel, qui était prêt même à mourir, lui ça ne le dérangeait pas. Mais Dieu a choisi de le garder pour que ça soit un témoignage auprès du roi, auprès de tous ceux qui étaient présents. Mais on sait que les premiers chrétiens, quand il y a eu la persécution de Rome, il y en a plusieurs qui ont été dans le Colisée, qui ont été jetés au lion, et qui sont morts là, en chantant des cantiques. Vous voyez que le regard de comparaison, c'est pas ce qui est bon. Le bon regard, c'est de regarder vers le Seigneur Jésus. Jésus a dit à Pierre un jour, « Que t'importe les autres? Toi, suis-moi. Que t'importe? Regarde pas les autres. » Il y en a qui vivent peut-être la même situation que toi. Ils vont pouvoir te donner un bon conseil parce qu'ils ont vécu les mêmes choses. Mais ça ne sera jamais la copie conforme. Ce que vit ton frère, ça ne sera jamais la copie conforme de ce que toi, tu vis. C'est pour ça que tu as toujours besoin de regarder au Seigneur. Un autre regard, vers le futur. Ils partirent de la montagne, dehors, par le chemin de la mer Rouge. Vous savez que le chemin de la mer Rouge, depuis la montagne dehors, c'était totalement à l'inverse de là où était le pays promis. Le pays promis était devant, et la mer Rouge, elle était derrière. Et le mont Hor, il était au milieu. Et alors qu'ils avaient pour but, ils avaient cette mission d'aller conquérir le pays promis, ils faisaient demi-tour. Il tournait le dos. Est-ce qu'il n'y a pas des fois dans notre vie des moments où on ne comprend pas les chemins par lesquels le Seigneur nous fait passer? Et on a l'impression de reculer, on a l'impression que le Seigneur nous fait passer, mais on ne fait pas de progrès, au contraire, on recule. On ne comprend pas ce qui se passe. Et c'est justement ce regard qui cherche à tout comprendre. Souvent, on est là, on voudrait tout comprendre. On voudrait avoir la sagesse de Dieu infinie et incroyable pour comprendre tout ce qui nous arrive. Et je pensais à cette histoire que j'ai lue récemment. C'est un vieil homme qui était dans une ferme, qui avait son petit-fils. Et chaque matin, le grand-père, il se réveillait très tôt pour lire la Bible. Et son petit-fils, il le voyait faire. Alors du coup, il voulait l'imiter. Comme les petits-enfants, ils aiment bien imiter leurs grands-parents. Et lui, il était là. Et quand son grand-père se levait, il se levait. Quand il se mettait à genoux, il se mettait à genoux. Quand il lisait la Bible, il lisait sa petite Bible. Et puis un jour, il vient voir son grand-père et lui dit « Mais grand-père, j'ai essayé de lire la Bible comme toi ». Mais je n'arrive pas à comprendre le sens des versets. Et lorsque je comprends, eh bien, parfois j'oublie aussitôt que je ferme ma Bible. Comment tu fais, toi? Alors le grand-père, il réfléchit un instant comme ça. Et puis, il dit, tiens, prends cette corbeille. Et puis, va à la rivière et remplis-la d'eau. Alors le garçon, il s'exécute, il ne réfléchit pas plus que ça, fait confiance. Il prend la corbeille et il revient tranquillement. Et puis au fur et à mesure qu'il marche, forcément, qu'est-ce qui se passe? L'eau s'évacue. Et donc, il arrive, il n'y a plus d'eau. Et il dit, ah mince, il n'y a plus d'eau. Qu'est-ce que je dois faire, grand-père? Ben, retourne à la rivière. Peut-être qu'il faut aller un peu plus vite. Alors, il retourne à la rivière et il puise son eau. Et là, il essaie de courir le 100 mètres comme Usain Bolt. Mais le problème, c'est qu'il en met la moitié à côté et que, de toute façon, l'eau s'évacue. Parce que c'est qu'une corbeille. Et alors, il essaie encore. Et une troisième fois. Et puis là, il met toutes ses forces, tout son cœur. Il fonce, et il y a un peu d'eau qui reste, mais dès qu'il le donne à son grand-père, il n'y en a plus. Et il dit, mais grand-père, c'est inutile, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et puis le grand-père lui dit, mais regarde maintenant la corbeille. Et la corbeille, qui au début était toute sale, toute noire, elle était toute lavée, elle était toute blanchie, elle était toute propre. Et le grand-père, il lui dit, c'est la même chose quand tu lis la Bible. Au début, tu peux ne pas comprendre ou tu ne te rappelles pas de tout, mais quand tu lis la Bible, quand tu médites sur cette parole, le Seigneur, il transforme ton cœur, il change ton âme et t'amène à faire des progrès. Et combien nous avons besoin d'avoir ce regard pas qui cherche à tout comprendre, mais qui fait confiance au Seigneur, qui a cette attitude de s'attendre à son Seigneur. Des fois, on ne comprend pas. Il y a des passages encore aujourd'hui. Monsieur Olé, est-ce que vous comprenez toute la Bible? Voilà. J'allais dire, moi, il y a des jours que il y a beaucoup de choses encore que je ne comprends pas. Mais Monsieur Olé, qui est cet enseignant qui nous apprend tellement de choses, est capable de dire, tous les jours j'apprends de la parole. Et même les choses que je ne comprends pas, ben, je fais confiance à mon Seigneur. Je fais confiance à mon Dieu. Et le risque, quand on veut tout comprendre, c'est exactement ce qui s'est passé dans le cœur de ce peuple, c'est de résister à Dieu. Quand ils ont cherché à tout comprendre, pourquoi on tourne le dos au pays? Le pays, il est par là, et toi, tu nous fais aller par là. Pourquoi? Est-ce qu'on n'était pas mis en Égypte? Justement, un autre regard qu'ils ont eu vers l'Égypte, le regard de complaisance, où on est à l'église, on vient dans la présence du Seigneur, mais on a ce regard de complaisance sur le monde qu'on a abandonné. Pourtant, quand on regarde l'état dans lequel ils étaient en Égypte, ce n'était pas quelque chose d'enviable. Mais ils sont tellement dans l'aveuglement, ils ont tellement laissé leur regard promener partout aux alentours, qu'ils ont perdu ce discernement. Et ils ne se rendent même plus compte des réalités. Le monde nous amène à la mort. Je relisais ce verset qu'on cite souvent, celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. On ne peut pas avoir un regard de complaisance sur notre vie passée, on ne peut pas avoir un regard de complaisance sur le péché. Celui qui sera ami du monde est ennemi de Dieu. Qui veut être ennemi de Dieu? Qui voudrait sciemment décider d'être ennemi de Dieu? Personne. Pourtant, quand on a un regard de complaisance, c'est exactement ce qui se passe. Quand on choisit de cultiver un petit péché qui... Bon, c'est rien du tout, c'est quelque chose qui... Il n'y a pas trop de conséquences. Eh bien, quand on fait ces choses, on est ennemi de Dieu. Et on a besoin justement d'aller devant le Seigneur et d'avoir ce regard qui nous permet d'être changé, transformé. Un autre regard vers le pays d'Édom. Je passe rapidement, mais ça c'est ce que nous rappelait notre frère Jonathan et qui nous a partagé ces choses. Vous savez qui était Édom? Édom, c'est l'autre nom d'Ésaü. Ésaü, c'était qui? C'était le frère de Jacob. Et les Israélites étaient les descendants de Jacob. Donc Édom, le pays d'Édom et les habitants, c'était les descendants d'Ésaü. Donc c'était des cousins lointains, on va dire. Et vous savez qu'à un moment donné, justement pour aller au pays promis, ils ont demandé aux habitants d'Édom s'ils pouvaient traverser. C'est juste dans les chapitres d'avant. Et ils se sont dit, mais après tout, ce sont comme nos frères. Il y a un autre passage où ils disent, ils parlent d'eux comme leurs frères. Et alors qu'ils font cette demande, les habitants d'Édom, ils sont là, ils refusent. Ils leur disent, non, vous ne passerez pas. Mais on est prêt à payer le prix de l'eau, on est prêt à payer le prix de toute la nourriture qu'on va prendre. Parce que bon, c'était une troupe quand même, hein. Donc vous imaginez plus d'un million de personnes qui arrivent, qui veulent traverser un pays. Il faut quand même certaines ressources. Mais ils étaient prêts à tout payer. Et ils étaient prêts à pas déranger. Pourtant, ceux qui considéraient comme leurs frères ont fermé leurs portes. Et je pensais, quand nos frères parlaient de ça, je pensais à toutes les fois où on a été blessé par un frère ou une sœur. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un d'être blessé par un frère ou une sœur? C'est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé. Est-ce que c'est un péché en soi? Est-ce que c'est pas normal? Est-ce que c'est pas quelque chose qui devrait arriver? Le Seigneur nous a prévenus. Dans les psaumes, David, il dit, toi, si c'était un ennemi, je comprendrais, mais toi qui es mon frère, toi qui mangeais avec moi, c'est toi qui m'as blessé. Et des fois, ça nous arrive d'être blessé. Et des fois, ça nous arrive, nous, de blesser aussi. Et il faut qu'on ait ce bon regard qui s'entête à regarder sur le pays des hommes. Ah, mais j'aurais dû passer par là, j'aurais dû forcer les choses, j'aurais dû lui montrer que j'avais raison. Ce regard qui est humble et qui dit, Seigneur, tu vois, il y a cette difficulté, il y a ce problème entre moi et mon frère. Je veux pas que ça s'envenime, je veux pas que ça me conduise à l'amertume. Vous savez ce qu'il est dit dans Hébreux chapitre 12, verset 14, je le lis pour vous. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. L'amertume, ça produit des racines. Vous savez, c'est comme la mauvaise herbe. Ça pousse tout seul. Et quand ça commence à pousser ses racines, dedans de notre cœur, c'est quelque chose qui est contagieux. Quand on est plein d'amertume, la preuve de ce peuple qui était dans cette amertume-là, il a commencé à s'impatienter en route. Il a commencé à trouver le temps long. Il a commencé à dire, mais qu'est-ce que Dieu fait? Il a commencé à avoir des réactions horribles même, parler contre Dieu et contre le conducteur que Dieu avait choisi pour ce peuple. La personne que Dieu avait choisie, ils ont commencé à parler contre. Est-ce que on a déjà parlé contre quelqu'un? Est-ce qu'on n'a pas besoin, si c'est le cas, d'aller nous repentir comme ça, on l'a entendu, de régler le problème et de dire « Seigneur, tu vois, j'y arrive pas peut-être. C'est trop dur d'aller demander pardon, ou c'est trop dur d'essayer de se réconcilier alors que nous, on est dans notre raison et que la personne s'entête. C'est dur. Mais combien c'est bon ? Et combien c'est possible seulement quand on a ce regard de la foi qui regarde au Seigneur Jésus. Un autre regard, je passe encore, parce qu'il y en a toutes sortes. Un regard sur les besoins. Ils ont commencé à regarder le pain et l'eau, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, Seigneur, tu vois, on manque de pain et d'eau, eh bien, viens à notre secours. Est-ce que c'est ça qu'ils ont fait? Est-ce que c'est pas ça qu'ils auraient dû faire? Quand un enfant, il a faim. Moi, j'ai deux garçons, quand ils ont faim, je le sais. Ils me le disent rapidement. Papa, j'ai faim, papa, j'ai faim. Surtout le matin, le bibi, hein, il faut qu'il arrive vite. Mais au moins, ils font connaître leurs besoins. Vous comprenez? Ce peuple, ils avaient des besoins. Et je réfléchissais, est-ce qu'il y a une fois où le Seigneur Jésus n'a pas pourvu à leurs besoins? Est-ce qu'il y avait une fois où Dieu, par sa puissance, il n'a pas répondu à leurs besoins? Est-ce qu'il y a une fois où Dieu s'est manqué? Il y a un endroit dans les Deutéronomes, quand il raconte toute l'histoire du peuple d'Israël, il dit « Tu n'as manqué de rien, parce que l'Éternel était avec toi. Tu n'as manqué de rien. » Donc il n'y a jamais eu un moment où ils ont manqué de quelque chose. Quand ils ont eu un besoin, eh bien, Dieu a permis que le besoin tout de suite soit pourvu. S'ils avaient besoin de pain, il y a eu la manne de manière incroyable. Tous les matins, il y avait les anges qui déposaient le pain, on pourrait presque imaginer ça comme ça, devant la porte des personnes. Alors c'était des tentes et c'était de la manne, donc c'était à eux de faire la farine. Mais vous voyez l'image. Tous les matins, il y avait le pain du ciel qui leur était donné. Et qu'est-ce qu'ils ont, ces personnes? Qu'est-ce qu'ils disent? Notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Dieu leur fait la grâce dans le désert d'avoir tous les jours de quoi se faire du pain. Et ils disent, notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Est-ce que nous n'avons pas des fois un regard qui c'est ce regard de convoitise, qui regarde plus à nos besoins qu'à ce que Dieu fait, qui est plus fort, notre désir de que notre besoin soit pourvu est plus fort que notre recherche de Dieu. Vous savez que David, c'était tout l'inverse. Quand il est passé dans le désert, il y a eu plusieurs déserts dans sa vie, mais il y a un désert quand il y est passé, que nous raconte le psaume 63. Qu'est-ce qu'il a dit? Il avait un besoin, il avait soif, il avait peut-être faim, il était desséché, et il dit, Seigneur, mon âme a soif de toi. Comme, alors, on peut le lire, tiens, ça y est. Comme, je préfère le lire pour ne pas déformer la parole. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. David, il faisait tout l'inverse. Il regardait à ses besoins, mais il prenait ce besoin pour en faire un motif pour chercher le Seigneur davantage. Les peuples d'Israël, ils ont fait le contraire. Ils ont pris leurs besoins, et ils ont cherché leurs besoins. Ils ont négligé Dieu, ils ont négligé la présence de Dieu, ils ont négligé ce regard, la foi. Combien nous avons besoin, nous, de nous servir de tout ce qui nous arrive? Est-ce qu'on a des besoins? On a tous des besoins différents, approprié à notre personne? Est-ce que nous nous servons de ces besoins-là pour en faire des moteurs pour chercher Dieu, pour en faire des moteurs pour aller dans la présence de Dieu? Tu vois, Seigneur, j'ai besoin de ça, mais je sais que tu es puissant, je sais que tu pourvoiras, mon Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse. J'ai cette certitude. Alors, je ne veux pas avoir un regard qui se promène partout. Je veux avoir ce regard sur ta personne. Et le regard qu'ils avaient sur la manne, c'était ce dégoût. C'était quelque chose qui, quand on se rend plus compte des bénédictions de Dieu. Je me souvenais de ces années où j'ai vécu en Afrique pendant 6 ans. Et les gens ne possédaient rien. Ils n'avaient pas d'écran plat. Ils n'avaient pas de home cinéma. Ils n'avaient pas toutes sortes de choses. Mais combien ils étaient heureux. tout simplement parce qu'ils étaient en vie, tout simplement parce qu'ils étaient en famille. Ils aimaient toutes ces choses toutes simples que le Seigneur leur donnait. Et quand je suis arrivé en France, moi j'étais tout jeune, de 11 ans à 17 ans, c'était cette période-là. De temps en temps, on rentrait en France. Et quand je rentrais en France, j'entendais les gens qui avaient tout, qui avaient les écrans, toute la technologie, qui avaient le confort, la sécurité sociale, tout ce que vous voulez, et qui faisaient que se plaindre, qui faisaient que gémir. Ah, et ceci, ah, et cela, ah, et les impôts par-ci, les impôts par-là. Et moi, j'étais jeune, mais j'avais cette double vision, je disais, c'est pas possible, c'est ceux qui ont le plus qui se plaignent le plus, et ceux qui ont le moins qui sont le plus heureux. Seigneur, aide-moi à avoir ce regard de reconnaissance, ce regard qui se rend compte que tout ce que j'ai est une grâce. Vous savez, quand David était sur le point de mourir, à la fin de sa vie, il a fait une prière particulière, une prière qui un peu résume toute l'expérience qu'il avait de Dieu. Ça disait quoi ? Seigneur, tout nous vient de toi. Tout ce que nous avons nous vient de toi. Alors, Seigneur, je veux rester dans cette confiance. Je veux rester dans cette appréciation. Vous connaissez bien ce verset. Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu. Il y a des gens qui passent des heures et des heures à chercher la volonté de Dieu, à se demander, à s'arracher les cheveux. Qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu pour ma vie ? Là, c'est marqué. Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté. Déjà, faites ça. Rendez grâce dans tout ce que vous avez. Et ayez ce regard, ce bon regard, qui reconnaît que tout ce que nous possédons, tout ce que nous pouvons en disposer, c'est la grâce de Dieu. Quel regard portons-nous, par exemple, sur la parole de Dieu ? Quel regard portons-nous sur la prière ? Quel regard portons-nous sur la communion fraternelle, sur la liberté de se rassembler ? Quel regard portons-nous sur toutes ces grâces ? Et je lisais ce témoignage de Porte Ouverte qui parlait d'une jeune fille. Son papa possédait une Bible. Et vous savez que ça, c'est pas un scoop. Quand on possède une Bible, il n'y a rien de particulier. Sauf qu'il y a certains pays où c'est un crime. Qui possède une Bible à la maison, voire plus d'une Bible ? Tout le monde. Vous savez que si vous alliez dans ce pays, vous seriez un criminel. Et vous risqueriez la mort. Il y avait toutes sortes de choses. Quand quelqu'un, et c'est en Corée du Nord que ça se passe, quand quelqu'un possédait une Bible, il était condamné à la torture, à la mort, lui et toute la famille. Alors la personne, le chef de famille, il est mis à mort systématiquement, et les autres sont envoyés dans des camps de travaux forcés, sont torturés, et il y a toutes sortes de choses horribles qui prennent place. Et c'est le cas de cette jeune fille racontée. Son père possédait la Bible. Et sa grand-mère était là, elle lui disait, il faut que tu crois en Jésus, il ne faut pas que tu crois en Kim, je ne sais plus quoi, le dictateur, parce qu'il se fait passer pour un dieu, il faut croire en lui. Et la grand-mère disait, non, crois en Jésus, parce qu'il faut que tu sois prêt quand il va revenir. Crois en Jésus. Et quand ils se rassemblaient, ils chantaient des cantiques, mais ils chantaient en murmurant, parce qu'ils n'avaient pas le droit de se rassembler. Et un jour, ça a été découvert, le papa a été emmené, la grand-mère a été emmenée, les deux ont été mis à mort, et elle a été mise en camp de travaux forcés pendant 10 ans. 10 ans, elle a vécu des choses horribles. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui est venu la voir, et qui lui a dit, il y a un pasteur qui peut t'aider à aller en Chine pour sortir de là. Et quand l'occasion s'est prêtée, elle a pu s'enfuir, aller pendant 6 heures de marche, elle a dû aller jusqu'à la frontière. Vous imaginez 6 heures, et ce n'était pas en plus dans des bonnes conditions, 6 heures de marche, mais le prix c'était la liberté. Et le pasteur qui était là, il a recueilli, et la première chose qu'il a faite, il l'a amené dans une église. Et elle a pu chanter des cantiques, elle a pu lire la Bible. Et elle disait, mais qu'est-ce que mon père, qu'est-ce que ma grand-mère aurait aimé être là. Et moi j'ai cette opportunité. Et les gens ne se rendent pas compte, et je crois que nous, frères et sœurs, nous nous rendons pas compte du privilège que nous avons. Et souvent, nous négligeons un si grand salut parce que nous en avons tellement l'habitude, parce que nous avons tellement la liberté que nous n'apprécions plus ces choses. Nous avons tellement de choses autour de nous. Je pensais à cette chose-là aussi, qui est un danger, je crois. J'ai rien contre la sécurité sociale, au contraire, je viens de le dire, il faut être reconnaissant. Mais je crois que à cause de toutes ces aides qu'on a, on est en train d'endormir notre foi petit à petit. On est en train de comment on dit le terme quand quelqu'un va se faire opérer ? Anesthésier notre foi. Parce que maintenant, dès le moment où on a un mal de tête, qu'est-ce qu'on fait ? ah, on court à dans notre pharmacie, hop, on prend un cachet. On n'a même pas ce regard de foi de dire, Seigneur, peut-être que tu veux me guérir directement. On n'exerce même plus notre foi. On s'attend directement à la sécurité sociale, à toutes les aides qui vont nous tomber dessus, et on ne met plus notre foi en œuvre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre les médicaments. Vous comprenez bien qu'est-ce que ça coûte quand on est malade de dire d'abord, Seigneur, tu peux me guérir. Et si on voit que ça persiste, ben, Seigneur, je vais faire ce qu'il faut. Tu m'as aussi donné du bon sens pour prendre mes médicaments. Mais vous voyez, souvent, on est tombé dans ce travers de je suis malade, tout de suite, je vais voir un médecin, tout de suite, je fais. Et moi, j'ai été repris dans mon cœur. Et vous savez que, justement, en Afrique, pourquoi on voit tant de guérisons? Pourquoi on voit tant de personnes qui sont miraculées? Parce qu'ils n'ont pas toutes ces choses-là. Et parce que eux, si on leur dit que tu es malade, ben, ça veut dire que tu es mort. Bon, heureusement, il y a des progrès qui sont faits petit à petit. Mais c'est pour ça qu'on voit des choses incroyables. Est-ce que nous nous attendons au Seigneur? Est-ce que nous avons ce regard, ce bon regard qu'il faut avoir? Et je voudrais justement qu'on parle de ce bon regard. Parce que les gens qui étaient là sont passés de la contestation à la confiance par une étape particulière. Il y a eu un changement profond qui s'est fait dans leur cœur, et on le voit à partir du verset 7. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à regarder aux conséquences du péché. Ils ont commencé à regarder aux conséquences de leurs mauvaises actions dans leur cœur, de leurs murmures, de leurs plaintes. Qu'est-ce qui se passe quand je suis pécheur? Eh bien, il y a les serpents qui viennent me mordre. Il y a les attaques de l'adversaire. Et beaucoup de gens sont morts. Il est dit que c'était des serpents brûlants. Il y avait l'image de la couleur déjà du serpent qui faisait penser au feu. Mais il y avait aussi l'image du venin qui brûlait littéralement les veines des personnes. Dès qu'ils étaient mordus, c'était une douleur intense à l'intérieur qui faisait qu'il y avait d'horribles douleurs. Et quand ils ont commencé à voir ça, quand ils ont commencé à voir les conséquences, qu'ils ont commencé à voir les uns et les autres tomber au fur et à mesure, ils ont commencé à réfléchir. Et des fois, le Seigneur permet certaines situations dures, brûlantes, ça nous brûle à l'intérieur, parce qu'on commence à réfléchir. On est tellement aveugle qu'on ne se rend pas compte que la volonté de Dieu, c'est qu'on aille au pays promis. Et nous, on se plaint, et nous, on murmure, et nous, on garde quelque chose contre notre frère. Et le Seigneur, il permet certaines choses dures, mais parce qu'il nous aime, il les permet pour qu'on se remette en question. Et c'est ce qui a été le cas. Il y a eu ce regard sur le résultat, sur les conséquences, un regard aussi de réconciliation. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Eux qui avaient parlé contre Moïse, ils sont allés voir Moïse. Et ils ont dit quoi? Nous avons péché. Ils ont reconnu leur péché, ils se sont repentis. Ils ont compris que s'ils voulaient les temps de rafraîchissement de Dieu, s'ils voulaient goûter à la vie de Dieu, il fallait qu'ils passent par l'étape « repentez-vous et convertissez-vous », comme le dit l'apôtre Pierre. Si on se repent et qu'on se convertit, alors il y a des temps de rafraîchissement. Alors il y a la vie de Dieu qui coule. Et ils ont surtout eu ce regard de confiance en Dieu. Ils ont eu ce regard de confiance. Parce que le Seigneur, il a dit quoi à Moïse? Prends ta perche et fais un serpent d'airain et mets-le au-dessus et tiens-le en hauteur afin que tous ceux qui le voient, pas tous ceux qui le méritent, pas tous ceux qui ont celui qui avait 200 brebis, lui, il allait être sauvé, mais celui qui n'en avait qu'une, il n'allait pas être sauvé. Pas le sacrificateur, pas le lévite, pas le chef de famille, le chef de tribu. Mais celui qui regardait simplement. Parce que ça ne se mérite pas, la grâce de Dieu. Et alors que les personnes ont eu ce regard-là, ce regard de confiance, c'est quand même quelque chose. Juste regarder un serpent. Et ils étaient guéris. Et ils conservaient la vie. Et peut-être que quelqu'un a essayé de lui convaincre, « Mais regarde le serpent! Ah non, mais moi je crois que Dieu, il faut le chercher, il faut faire plein de sacrifices, ou il faut chanter des beaux cantiques et je vais être sauvé, ou il faut faire de belles prières qui font pleurer tout le monde. » Non, regarde, et ce regard de la foi, ce regard simple. Celui qui a écrit la lettre aux Hébreux rappelle que le péché nous enveloppe si facilement, les serpents, ils sont là autour de nous, ils voudraient nous mordre, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ayons le regard fixé sur Jésus, le chef et le consommateur, la foi. Celui qui mérite qu'on ait ce regard-là, parce que c'est celui qui nous a montré son amour. Et je voudrais maintenant finir sur cette réalité, qu'en regardant à la croix, en regardant en Jésus, en regardant ce symbole, le serpent des reins, ça nous parle de Jésus qui a été élevé sur le mont Golgotha, qui a été élevé sur une croix pour que tous les hommes puissent maintenant être interpellés par ce message. Et que surtout, la croix, ça nous parle de l'amour de Dieu. Dieu prouve son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Les Israélites, ils étaient encore mauvais dans leur cœur. Mais ils ont quand même eu ce moment de repentance. Ils sont rentrés en eux-mêmes. Ils ont regardé aux conséquences, ils ont regardé en eux-mêmes. Ils ont regardé ce qu'ils pouvaient arranger, réparer, réconcilier avec Moïse. Ils ont regardé aussi au serpent des reins. Nous avons besoin de faire toutes ces étapes. Mais nous avons surtout besoin de comprendre que derrière la croix, derrière la mort de Jésus, qui n'est plus sur la croix d'ailleurs, il y a Dieu le Père qui montre tout son amour. Et comme le disait le don spirituel, il y a ce fleuve d'amour qui coule depuis. Et combien nous avons besoin, nous, d'ouvrir notre cœur. Comment c'est possible que cet amour de Dieu qui a été manifesté de façon si incroyable puisse avoir un effet dans ma vie aujourd'hui? Comment c'est possible que cet amour miraculeux, extraordinaire, qui ne change pas, qui dure à jamais, puisse avoir un effet dans ma vie? Ben, il faut regarder. Regarder à Jésus. Regardez à celui qui peut nous amener plus loin, à celui qui peut nous transformer. Le regard du Père, c'est un regard qui se détourne du péché. Vous savez, les plaintes, les murmures, les paroles contre, les disputes entre certaines personnes, ça fait quoi? Ça fait que Dieu est obligé de détourner son regard. Et c'est pas Dieu qui a choisi d'envoyer les serpents comme ça, c'est simplement qu'il y a eu le péché dans le cœur des personnes et Dieu a détourné son regard. Dieu a détourné son regard. La conséquence, c'est qu'ils étaient dans le désert. Les serpents, c'était monnaie courante. C'était normal qu'il y ait des serpents qui viennent. Ce n'était pas quelque chose d'incroyable qu'il y ait les serpents qui viennent à ce moment-là. Ce qui est incroyable, c'est que tant que Dieu a eu son regard favorable sur eux, tant qu'il n'y a pas eu le péché dans leur cœur, les serpents n'ont pas pu les attaquer. Ils étaient protégés, ils étaient approuvés. Dieu leur était favorable. Et il y a plusieurs versets, Esdras a pu dire « L'œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs ». Le psaume 33 dit « L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa montée ». Et c'est vrai que tant qu'on reste dans cette bonne disposition, l'œil de l'Éternel, le regard du Seigneur est favorable sur nous, il nous garde, il nous protège. Mais dès qu'on laisse le péché régner, Dieu détourne son regard. Et le péché, les serpents viennent nous attaquer. Vous comprenez? Le regard de Dieu, c'est un regard qui se détourne du péché. Voilà pourquoi nous devons à tout prix chercher cette communion avec le Seigneur, avoir ce regard de foi envers le Seigneur. C'est un regard d'amour désintéressé. Dieu voit son peuple décimé par les serpents. Il voit qu'il y en a beaucoup qui ont laissé ces choses prendre place dans leur cœur et il y a les conséquences du péché. Mais parce qu'il les aime, il a donné le serpent des reins. On pourrait prendre Jean 3,16 et l'adapter aux Israélites. Car Dieu a tant aimé les Israélites qu'il a donné le serpent des reins. Afin que celui qui le regarde ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Et maintenant, on comprend mieux qu'on a besoin, nous, aujourd'hui, pour accéder à cette vie, pour accéder à cet amour, pour accéder à cette bénédiction de la présence de Dieu favorable sur ma vie, de ne pas promener nos regards de tous les côtés, mais d'avoir notre regard fixé sur le Seigneur Jésus, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit, donc celui qui n'a pas ce regard physique, mais ce regard spirituel, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La foi, pour prendre l'acronyme, c'est la force qui observe l'invisible. Cette capacité de voir, d'être sûr de ce que le Seigneur Jésus a dit. Dieu a prouvé son amour. Oui, Dieu m'aime, mais je n'arrive pas à le réaliser dans ma vie que Dieu m'aime. Tu vois toutes les circonstances qui sont défavorables. Tu vois toutes ces choses qui sont autour de moi, les personnes qui sont méchantes. Regarde à Jésus. Là, tu vas comprendre. Tu vas pouvoir regarder dans les yeux du Père, si vous permettez cette expression. Parce que la croix nous montre véritablement l'amour du Père. Nous voulons... Est-ce que vous voulez voir le regard du Père? C'est un regard plein d'amour. Est-ce que vous voulez voir la gloire de Dieu? Moïse, il a dit, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui a dit quoi? Je te montrerai ma bonté. Je te montrerai ma grâce. Je fais grâce envers qui je fais grâce. Est-ce que nous voulons voir l'amour de Dieu dans notre vie? Alors regardons à Jésus. Jésus qui n'est pas resté sur la croix, mais Jésus qui est maintenant dans son ciel de gloire, qui règne et qui veut être notre maître, notre Seigneur, celui qui dirige notre vie, et faisant comme Moïse qui n'a pas eu tout ce regard éparpillé, mais dès le moment où Dieu lui a parlé, lui savait la volonté de Dieu, lui il était plein de confiance, qu'est-ce qu'il a fait? Quand Dieu lui parle, il a obéi. Quand Dieu lui parle, il a fait ce que Dieu lui demandait. Vous voyez, c'est très simple. Dieu lui dit, fais-toi un serpent. Il a dit, Moïse se fit un serpent. Dieu lui dit, élève le serpent. Moïse éleva le serpent. Cherchons pas plus. Quand Dieu nous parle, quand Dieu nous demande de faire certaines choses, faisons-les. Et nous verrons la bénédiction de Dieu sur notre vie. Nous plaçons notre foi dans le Seigneur. Où regardez-vous en ce moment? Où regardez-vous? Spirituellement, bien sûr. Est-ce que vous regardez à vous-même? Est-ce que vous regardez aux circonstances? Est-ce que vous regardez à un tel qui a l'air beaucoup plus en forme spirituellement? Regardez au Seigneur Jésus. Et là, vous aurez accès à l'amour de Dieu, vous aurez accès à la vie de Dieu, et vous ne connaîtrez pas les morsures des serpents brûlants. Et même si les serpents brûlants vous mordent, parce que vous aurez ce regard de foi, le Seigneur sera capable d'absorber tout le mal, de changer le mal en bien, et de vous communiquer sa vie éternelle. Que son nom soit béni. Amen. Merci. Merci notre Dieu, notre Père, parce que tu es ce Dieu vivant, ce Dieu qui nous aime, comme nous l'avons répété, et comme nous l'avons expérimenté surtout, et comme nous voulons encore dans cette matinée l'expérimenter de ta part. Oui, Seigneur, que ton fleuve d'amour puisse couler dans ce lieu, par ton Saint-Esprit, dans ces moments. Tu vois les cœurs qui sont dans les besoins de ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui n'ont jamais appris à avoir ce regard de foi. Seigneur, dans ces moments, tu es capable de leur communiquer, de leur faire comprendre qu'il suffit de lever les yeux sur la croix, sur le ton sacrifice, et ils seront sauvés. Tu vois ces personnes qui ont oublié d'avoir ce regard, qui l'ont connu à un moment donné, mais qui l'ont oublié pendant tant et tant de temps, qui ont laissé les choses de ce monde prendre le dessus, qui ont éparpillé leur regard à droite ou à gauche, Seigneur. Tu leur permets dans ces moments de refaire ce regard de la croix, ce regard vers la croix, vers toi, qui est mort pour eux. Tu vois, Seigneur, nous tous qui nous connaissons, qui voulons marcher avec toi, aide-nous à avoir ce regard qui, de confiance continuelle, ce regard de respect, de crainte pour ton nom, Seigneur. Aide-nous, quand tu parles, à simplement obéir, sans réfléchir, sans calculer quoi que ce soit, et en te faisant confiance tout simplement. Merci Éternel, parce que je crois que dans ces moments, par ton Saint-Esprit, tu communiques, Seigneur, ta paix, tu communiques ton amour, tu nous aides à comprendre ce verset que nous croyons connaître tellement bien, mais que nous avons besoin de comprendre par la révélation de ton Saint-Esprit, avec plus de profondeur dans ces moments, Seigneur. Remplis-nous de cet amour, permets-nous, en regardant la croix, de comprendre ton amour, de voir ton saint regard, et que cet amour que tu as puisse se répandre dans nos cœurs, et que nous puissions aimer ceux qui sont autour de nous, avoir ce regard désintéressé pour ceux qui sont autour de nous, avoir ce regard d'amour pour ceux qui nous font du mal. Seigneur, nous avons besoin, encore aujourd'hui, pour être dans ce monde, pour tenir bon dans ce monde, d'avoir cet amour, nos cœurs remplis de ton amour. Alors, dans ces instants, par ton Saint-Esprit, fais cette œuvre dans nos cœurs éternels. Amen.